Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
la Bible est-elle un millefeuille ?
Salut Marc.
Salut Samuel. Dis-moi, la dernière fois, tu m'avais dit comment les textes avaient été arrêtés, choisis. Mais j'ai regardé dans ma Bible et c'est un vrai désordre. J'ai retrouvé aucune cohérence entre les textes. De plus, entre une Bible juive, la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, l'organisation n'est pas du tout la même.
Il faut que tu gardes à l'esprit qu'il s'agit de textes qui ont été écrits sur une période de 16 siècles, par une quarantaine d'auteurs vivant dans des périodes et des conditions et des lieux totalement différents. C'est passé des tas de choses durant tout ce laps de temps. Conquête de la terre promise, installation de la royauté, schisme politico-religieux et la mort du roi Salomon, guerre et domination étrangère, destruction du temple de Jérusalem, déportation, exil à Babylone, retour et difficile reconstruction du temple, etc. Alors, si on voulait faire une comparaison moderne, prenant comme point de départ l'an 0. Tu connais la guerre des Gaules de Jules César ?
Oui.
La chanson de Roland ?
Oui.
Les fables de La Fontaine ?
Oui aussi.
Les écrits de Diderot ?
Oui.
Victor Hugo.
Ouais.
Le Code civil.
Oui. Et Harry Potter and the Goblet of Fire.
Non. Enfin bon, tu prends tous ces livres, tu les mets à la suite, ça te donnera une idée de ce qu'est la Bible. Des histoires, des poèmes, des proverbes, des récits, des textes législatifs, écrits à des périodes différentes, par des personnes différentes et dans des langues différentes.
Ouais, enfin bon, un peu n'importe quoi, quoi. On avait vu la dernière fois comment les livres avaient été choisis, mais voyons comment est composé maintenant ce millefeuille biblique.
Les Bibles chrétiennes comprennent deux grandes parties, hein, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Enfin, testament, ça fait quand même bizarre.
En fait, le mot testament, ça vient du latin testamentum, et c'est lui-même une traduction d'un mot grec, diatheke. Et ce mot, ça a une double signification en grec.
Oula, attends, cette fois, j'ai pris mon dictionnaire et ma Bible. Alors, je lis. Testament désigne une disposition légale qui consigne la volonté du défunt à l'égard de ses descendants. Ça, c'est une première définition. Et l'autre a également le sens de pacte, de traité, d'alliance.
Voilà, on pourra parler indifféremment d'Ancien ou de Nouveau Testament, ou de Première et de Nouvelle Alliance. Ce double sens nous indique quel va être un des grands centres d'intérêt de la Bible, l'histoire d'une alliance qui se transmet de génération en génération.
Et comment est-ce qu'on est passé d'alliance à testament ?
Prends ta Bible.
L'Ancien Testament, je suppose.
Eh ben non, le Nouveau. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14.
Qu'est-ce que tu veux dire, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14 ?
C'est une référence. Pour pouvoir facilement retrouver un passage dans la Bible, on a découpé la Bible en plusieurs unités et sous-unités qu'on appelle les chapitres et les versets.
D'accord, mais qui a fait ce découpage ?
C'est Robert Estienne, un imprimeur du XVIe siècle. Il a trouvé ce système pratique pour imprimer la Bible petite section par petite section. Un chapitre correspond en gros à quelques paragraphes et un verset correspond à quelques lignes. C'est évidemment un découpage artificiel, les auteurs de la Bible n'ont rien à voir avec ce système. C'est juste un moyen pratique de s'y retrouver. Donc, reprenons. Si je te dis 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14, est-ce que tu vas te repérer maintenant ?
Attends, je cherche. Corinthiens, ok, c'est dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, ça y est, j'y suis. Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît.
C'est saint Paul qui parle du Testament pour la première fois. Donc, l'Ancien Testament, ou la Première Alliance, relate l'histoire des origines de l'humanité, la formation et l'histoire du peuple juif, et il annonce la venue de Jésus. Le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, ça relate la venue de Jésus-Christ, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, et il contient aussi l'histoire de l'Église naissante et diverses lettres ou épîtres adressées à des communautés ou des individus, et il a 27 livres.
Donc, deux testaments, l'Ancien et le Nouveau.
L'Ancien Testament, la Bible hébraïque, c'est écrit en hébreu principalement.
Mais comme son nom l'indique.
Et quelques livres sont écrits en araméen. La tradition juive la divise en trois grandes parties, résumées par le terme de Tanakh.
Tanar, ça veut dire quoi ?
Il s'agit des initiales de leur titre hébreu. T pour Torah ou Pentateuque, N pour Nevim ou prophète, et K pour Ketuvim, ou écrit.
Ouais, enfin, l'Ancien Testament, ça concerne que les Juifs.
Comment ? Prends ta Bible, Luc 24, 44, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. »
Ouais, la loi, les prophètes et les psaumes. Donc effectivement, il semblerait que cette organisation soit aussi celle de Luc. Bon, ok. La Torah, c'est les cinq premiers livres, c'est ça ?
Oui, on parle aussi de Pentateuch, Penta pour cinq, Teuch pour étui.
Les cinq étuis, quoi.
Torah, ça veut dire loi. En fait, la Torah est constituée des cinq livres attribués selon la tradition à Moïse, et dont la narration couvre la période allant de la création du monde à la mort de Moïse, qui a mené le peuple d'Israël hors d'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise, en passant par le mont Sinaï, où il a reçu les commandements de Dieu.
Et la Torah, elle se décompose comment ? Il y a une logique ?
Évidemment, la logique divine. La Torah est composée de cinq livres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome.
Alors, je sais que la Genèse, c'est le début, la création du monde, puis la création de l'homme.
C'est la création du monde, l'humanité et l'affirmation de l'existence de Dieu. On retrouve les premières alliances avec Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. et la création du peuple que Dieu s'est choisi.
Ah, l'Exode, c'est facile. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire du peuple juif pendant sa captivité en Égypte, puis sa sortie miraculeuse sous la conduite de Moïse. Et puis, il y a le don de la loi, et puis les 10 commandements. Par contre, après l'Exode, le Lévitique, je vois pas trop.
Lévitique contient la législation des prêtres qui concernait la tribu de Lévi.
Lévi, c'est pas une des 12 tribus d'Israël ?
Oui, qui vient d'un des fils de Jacob, Lévi.
D'accord. Donc Genèse, Exode, Lévitique, les nombres, c'est parce qu'ils étaient très nombreux ?
Bah oui, c'est pour ça, c'est à cause du double dénombrement du peuple pendant son séjour dans le désert. En fait, ça va des préparatifs pour le peuple juif en vue de se mettre en route vers le mont Sinaï et de son entrée finale en terre promise.
D'accord, et le cinquième livre, le Deutéronome, c'est quoi ?
Deutéronome, c'est du grec, ça veut dire deuxième loi. Et ça contient l'histoire d'Israël après l'Exode, des bénédictions, des malédictions dont il fait l'objet, des conséquences de leur obéissance ou de leur désobéissance. Exposition de nombreuses exhortations et d'avertissements et les derniers actes et derniers jours de Moïse.
Donc, pour reprendre, c'est avant tout la Torah, un récit de l'aube de l'humanité et l'histoire de la relation entre le peuple hébreu et son Dieu, c'est ça ?
Tu vois, on pourrait aussi dire qu'en fait, il s'agit avant tout de textes juridiques et rituels, parce qu'ils représentent la majorité, et des textes narratifs qui ont pour but de mettre en valeur ou de commenter une loi. Mais ce n'est pas des lois et des histoires, c'est un enseignement.
Une parole, quoi. Bon, on passe aux prophètes. Ça raconte quoi, les prophètes ?
Les prophètes, ça va de Josué, l'assistant de Moïse, jusqu'à Malachi, le dernier prophète. Et il y a des récits de conquêtes.
Ah oui, comme la conquête de Jéricho ?
Voilà. Des listes de territoires, des récits populaires ou limites légendaires.
Ah oui, comme David et Goliath ou Samson avec sa force surhumaine.
Voilà, des chroniques des cours royales de Jérusalem, de Samarie.
Ah oui, le roi Salomon.
Oui. La tradition juive a introduit une division à l'intérieur des prophètes. Elle distingue les prophètes premiers, ce que nous on appelle les livres historiques.
Historiques, c'est quoi au juste ?
Bah, l'histoire de Josué, les juges, Samuel, livre des rois. En gros, ça va de l'entrée du peuple hébreu en Israël jusqu'à la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Donc, elle distingue les prophètes premiers des derniers prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres 12 petits prophètes.
Ah oui, c'est ce que nous, on appelle les prophètes.
Ouais, oui. Après, on a les autres écrits, en hébreu, Ketuvim, qui s'ouvrent par les psaumes et les écrits de sagesse, et complètent l'historiographie avec le retour de l'exil.
Et qu'est-ce qu'on y trouve dans les écrits ?
Bah, plein de textes historiques, prophétiques, mais surtout aussi des textes poétiques.
Poétiques ?
Oui, notamment les psaumes, qui sont utilisés pour prier. D'ailleurs, je vais te lire le commencement du psaume 22. Du chef de cœur sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, je ne trouve pas le repos.
C'est pas gai.
C'est une prière d'appel au secours. Mais ça, c'est le début. La fin, elle est bien différente, beaucoup plus calme. En fait, Tu la retrouves dans le Nouveau Testament. Jésus récite ce psaume lorsqu'il est sur la croix.
À propos de Jésus, on passe au Nouveau Testament ?
Alors, le Nouveau Testament, ou donc la Nouvelle Alliance, c'est l'ensemble des livres canoniques pour le christianisme qui témoignent de la personne de Jésus de Nazareth, que les chrétiens déclarent Christ, Messie, Seigneur du monde. Les 27 livres sont rédigés comme la Septante, en grec commun, koiné. La période de rédaction est très brève, 3 générations au maximum, au plus tard au début du 2e siècle. Ces 4 évangiles y parlent de la naissance, de la prédication de Jésus et de sa résurrection.
Évangile d'ailleurs, ça veut dire quelque chose ?
Oui, ça veut dire bonne nouvelle ou annonce orale. Les actes des apôtres parlent du développement par les apôtres de la primitive église. S'ensuit toute une série de lettres et d'épîtres écrites par plusieurs personnes.
Oui, Pierre, Paul, Jacques.
Oui, principalement, mais aussi Jean, Jude. Et puis pour finir, l'Apocalypse.
Ah oui, Apocalypse, ça veut dire fin du monde ?
Non, en fait, ça veut dire révélation.
Ah d'accord. Et ensuite ?
Ensuite, il n'y a plus rien, c'est fini, on a déjà 27 livres. Par contre, il faudra rajouter les interprétations.
Les interprétations ?
Comme tu as pu le voir, ces textes ne sont pas forcément facilement abordables. Donc, pour nous aider, nous avons toute une série de commentaires.
Et fait par qui ?
Les pères de l'Église, par exemple, ou les saints. Mais on en parlera dans une prochaine émission.
Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, il y a l'Ancien Testament, avec le Pentateuch, les livres historiques, les écrits et les prophètes. Et de l'autre côté, le Nouveau Testament avec la vie de Jésus, l'histoire et les lettres des apôtres et l'Apocalypse.
Voilà.
Bah dis donc, c'était intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de trucs sur l'organisation de la Bible.
Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à...
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
la Bible ne suffit pas.